Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. La police de Minneapolis démantelée, elle va disparaître dans sa forme actuelle. Ainsi en a décidé dimanche son conseil municipal. Les autorités de cette ville américaine ont annoncé cette mesure choc 2 semaines après la mort de l'Africain-américain George Floyd lors de son interpellation par un policier blanc. Ce dernier doit comparaître lundi pour la première fois devant la justice, inculpé de meurtre. Des milliers de personnes ont manifesté ce week-end ici aux États-Unis ainsi qu'à travers le monde contre le racisme, sans que ces rassemblements historiques ne dégénèrent en émeutes et en pillages, comme cela a été le cas dans les jours ayant suivi le drame. Dans plusieurs villes américaines qui ont dû mettre en œuvre des couvre-feux. Par ailleurs, jugeant que la situation était désormais parfaitement sous contrôle, après les grandes manifestations pacifiques de samedi, le président Donald Trump a ordonné le retrait de la garde nationale de Washington. Dans un instant avec Claire Morin-Jubourg, les manifestations antiracistes dans le reste du monde. 400 ans de racisme systémique. Eh bien, les démocrates ont de leur côté appelé dimanche à une transformation profonde de la police accusée de discrimination, d'injustice et de brutalité à l'encontre des Africains-Américains. Plusieurs élus démocrates veulent s'attaquer à ce qu'ils estiment être le fruit d'un racisme qui gangrène l'histoire des États-Unis depuis l'esclavage, en présentant lundi devant le Congrès une loi pour réformer la police dans l'ensemble des États-Unis. Certaines mesures ont déjà été imposées à un échelon local depuis le début de ce mouvement de contestation. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de racisme systémique chez les forces de l'ordre de notre pays, a réagi hier sur ABC le ministre de la Sécurité intérieure, Chad Wolf. Le ministre de la Justice, Bill Barr, a dit comprendre la méfiance des Africains-Américains, mais il a assuré que le pays était déjà sur le chemin d'une réforme de ses institutions depuis les années 60, lorsque l'Amérique avait été secoué par un autre mouvement de contestation historique contre le racisme. Pour sa part, le président Donald Trump, qui brigue un second mandat en novembre, a accusé son adversaire Joe Biden et les démocrates de vouloir couper les vivres à la police. Il a plaidé pour des forces de l'ordre efficaces et bien payées. L'ancien vice-président de Barack Obama doit rencontrer la famille de George Floyd à Houston ce lundi, à la veille de ses obsèques. Pour sa part, l'ex-secrétaire d'État de George W. Bush, l'Africain-américain Colin Powell, a annoncé dimanche qu'il voterait pour le démocrate Joe Biden, mettant en garde contre le danger d'un second mandat de Donald Trump, président qui, selon lui, ment tout le temps. M. Trump a rétorqué dans un tweet que M. Powell était un homme à la réputation, selon lui, très surfaite. La Nouvelle-Zélande n'a plus aucun cas actif de coronavirus, ont annoncé lundi les autorités sanitaires après la sortie du dernier patient qui était encore à l'isolement. Ce pays a été salué pour sa réponse efficace à l'épidémie de coronavirus qui a impliqué notamment un confinement strict de 7 semaines jusqu'en mai. Ici aux États-Unis, le coronavirus a tué 691 personnes, supplémentaires au cours des dernières 24 heures selon l'université Johns Hopkins. Et c'était hier ce bilan, ce qui porte à 110 482 le nombre total de décès dans le pays, qui compte 1 938 842 cas. Au plus fort de la crise, mi-avril, les États-Unis enregistraient autour de 3 000 morts par jour. Nous reviendrons sur le coronavirus dans le reste du monde dans un instant. L'ex-président tchadien Hissène Habré, condamné à perpétuité par une juridiction africaine à Dakar pour crime contre l'humanité, retourne ce dimanche en prison. La suite de nos informations, au Nigeria, 6 soldats ont été tués dans une attaque djihadiste contre une base militaire dans le nord-est du pays. Davantage de détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est à bord de camions équipés de mitrailleuses que des combattants de l'ISWAP, le groupe État islamique d'Afrique de l'Ouest, ont attaqué la base militaire d'Ono samedi à 25 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno. Nous avons perdu 6 soldats, a indiqué un officier sous le couvert de l'anonymat. Les affrontements ont duré 2 heures jusqu'à ce que les militaires nigérians submergés soient contraints de battre en retraite, a affirmé une autre source militaire qui a confirmé le bilan. L'armée recherche 45 soldats qui n'ont pu être localisés, mais dont elle estime qu'ils sont parvenus à s'échapper. Les assaillants ont pillé des armes et incendié des bâtiments à l'intérieur de la base avant d'être repoussés grâce à un soutien aérien. La zone d'Ono a été visée récemment par des séries d'attaques contre l'armée et des enlèvements de conducteurs à des faux barrages de forces de sécurité. L'ISWAP, qui a fait scission de Boko Haram pour s'affilier à Daesh, multiplie les attaques contre les forces armées et contre les civils.
La pandémie du coronavirus a désormais fait plus de 400 000 morts dans le monde avec près de 7 millions de contaminations. L'Algérie et l'Afrique du Sud continuent d'alléger les restrictions du confinement comme nombre de pays européens. Michel Joseph.
En Algérie, une partie des commerces a commencé à rouvrir, dont les pâtisseries et les fast-foods en vente à emporter. Après 9 semaines de confinement, églises, mosquées et synagogues étaient de nouveau ouvertes en Afrique du Sud, mais beaucoup de fidèles n'ont pas fait le déplacement. Après près de 46 000 cas et 952 morts recensés, l'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le Covid-19. En Europe, la France n'a enregistré que 13 décès en 24 heures et espère un allègement des règles sanitaires pour les enfants à l'école. L'Irlande réouvre tous ses commerces aujourd'hui, à l'exception des centres commerciaux. La Grèce prolonge de 2 semaines le confinement imposé aux camps de migrants surpeuplés, mais prépare dans le même temps la reprise du tourisme. Essentiel pour son économie. Les aéroports d'Athènes et de Thessalonique rouvriront le 15 juin. En Iran, les autorités expliquent la hausse des nouveaux cas par une intensification des tests de dépistage. Cuba a déclaré la pandémie sous contrôle, tandis que le Pérou, second pays le plus touché d'Amérique latine, avec plus de 5000 morts, manque d'oxygène médical.
De Bristol à Budapest, en passant par Madrid et Rome, des dizaines de milliers d'Européens ont rejoint les manifestations contre le racisme hier dimanche, prolongeant la vague de protestations déclenchée aux États-Unis par la mort d'un homme noir asphyxié par un policier blanc à Minneapolis, dans le Minnesota. Claire Morin-Gibourg, de nouveau.
En Espagne, quelques 3000 personnes se sont rassemblées à la mi-journée devant l'ambassade des États-Unis à Madrid pour dénoncer la mort de George Floyd. En Italie, ce sont des milliers de jeunes qui, lors d'une manifestation imprévue, se sont agenouillés en silence, le poing levé. À Lausanne, des milliers de Suisses vêtus de noir ont défilé en brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Ma couleur n'est pas une menace ». Au Royaume-Uni également, malgré l'interdiction des autorités, des milliers de Britanniques ont manifesté à Londres, mais aussi dans d'autres villes, notamment à Bristol. Dans cette ville du sud-ouest de l'Angleterre, au passé esclavagiste, une statue du négrier Edward Colston a été déboulonnée, puis piétinée par les manifestants. La veille à Londres, une manifestation pacifique de milliers de personnes s'était terminée par des échauffourées. La police a chargé à cheval pour disperser des protestataires qui leur lançaient des bouteilles. À Bruxelles également, des casseurs ont terni le rassemblement antiraciste de près de 10 000 personnes.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a engagé un partenariat avec le Centre du commerce international pour accompagner les entreprises africaines. Il s'agira de former des responsables de PME afin qu'ils reçoivent les compétences et connaissances nécessaires pour le commerce transfrontalier. Dans un premier temps, cette formation sera dispensée dans 3 pays pilotes, le Rwanda, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La Banque africaine de développement a accordé 1,22 million de dollars à la RDC pour lutter contre la maladie Covid-19. Ce don fait partie de 13 millions que l'institution a accordé à la CEMAC dans ce même cadre. Ce programme de la BAD prévoit la fourniture d'équipements de protection au personnel de santé, la mise à disposition de kits de tests et d'ambulances médicalisées, ainsi que le renforcement de capacités des agents communautaires. Le centre humanitaire de Malakal dans l'état du Haut-Nil au Soudan du Sud a finalisé l'installation d'une centrale solaire hybride gérée par l'OIM. Elle répondra à 80% de la demande d'électricité du centre où travaillent 300 employés de 34 organisations. Ces humanitaires desservent près de 30 000 personnes déplacées vivant sur le site adjacent et dans les communautés vulnérables voisines.
Les sports à présent avec Élisée Onpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Handball, la Confédération africaine de la discipline maintient 3 compétitions pour cette année 2020.
Tout à fait, et c'est suite à une réunion par vidéoconférence du comité exécutif dirigé par son président Aremu Manzuru que le nouveau calendrier a été élaboré. Mamama Fadiga, directrice exécutive de cette instance, explique.
La Confédération africaine de handball a laissé le soin à la Fédération internationale de handball d'établir d'abord le calendrier de ces événements parce que nous voulions quand même éviter des chevauchements. Et c'est par la suite que nous avons procédé à la programmation de nos activités. Et cela à titre indicatif, avec l'espoir que nous allons assister à la maîtrise totale de cette pandémie qui sévit dans le monde entier.
Pour les 3 compétitions qui auront lieu en 2020, on peut noter le championnat d'Afrique des clubs champions hommes et dames seniors, hockey, du 13 au 22 novembre, du championnat d'Afrique des nations juniors masculins à Casablanca au Maroc du 6 au 12 décembre et du 16e championnat d'Afrique des nations cadets masculins toujours à Casablanca au Maroc du 13 au 19 décembre 2020.
Football à présent, la CAF pourrait être dirigée par une femme pour la première fois.
Oui, et selon KIK 442, c'est la Burundaise Lydia Nsekira qui compte présenter sa candidature lors des prochaines élections. Membre du comité exécutif de la FIFA et présidente du comité olympique de Burundi, elle fera bientôt une déclaration à annoncer ses proches. Rappelons que les élections de la CAF devraient avoir lieu en 2021.
En RDC, Élisée, après le départ surprise de Gabriel Amissi de la tête de l'ASV Club de Kinshasa, un candidat de taille aurait déposé son dossier pour le remplacer.
Exactement Idrissa, et c'est Eugène Diombi Ndongala, un homme politique surtout connu dans le paysage sportif congolais pour avoir dirigé l'ASV Club pendant 2 ans. L'information a été apportée par V Club Télévision, proche de la direction des Dauphins Noirs.
En Europe, 30e journée de la Bundesliga et le Bayern de Munich fonce vers le titre.
Le club bavarois poursuit à vive allure son odyssée vers un 8e titre de champion de suite grâce à son 9e succès de suite obtenu sur la pelouse de Bayer Leverkusen, score 4-2. Le club entraîné par Hans-Dieter Flick totalise 10 points d'avance sur le Borussia Dortmund, second au classement et vainqueur 1-0 d'Hertha Berlin.
Yacouba Ouedraogo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, les autorités sanitaires ont fait le point mensuel de la gestion de la COVID-19 et les indications données par ceux qui sont au cœur de la riposte montrent une évolution de la maladie qui a fini par atteindre toutes les régions du pays. Une situation qui pousse les médecins à demander davantage de rigueur aux populations au moment où le gouvernement ne cesse d'assouplir les restrictions. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
Le Sénégal est dans une phase active de transmission de la COVID-19. En 30 jours, le nombre de cas positifs a été multiplié par 4 et le nombre de décès est passé de 8 à 43. Seul point positif, les patients guéris sont plus nombreux que les malades sous traitement. Cependant, Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, craint une montée en flèche des cas, notamment ceux dits communautaires.
Nous sommes actuellement sous stress par la gestion de cette pandémie. Il n'est pas évident pour un système de santé d'absorber 4000 patients. Et donc, il est évident qu'il faudra prendre considération de ça. Donc, l'analyse des cas communautaires devra se faire différemment. Ces cas vont être de plus en plus importants. Donc, si aujourd'hui, par rapport aux mesures qui ont été édictées et que les personnes ne respectent pas les mesures barrières, il faudra naturellement s'attendre à l'augmentation de ces cas communautaires. Parce que tout simplement, les gens vont bouger plus et que donc, il est très, très important. Nous le disons encore, il faut que les mesures barrières soient respectées. Si ces mesures barrières soient respectées, on peut arriver à une situation très difficile.
L'hydroxychloroquine est l'autre sujet brûlant sur lequel les médecins sénégalais étaient attendus. Et le professeur Moussa Seydi n'a pas esquivé la question. Au moment où la molécule est au centre d'une vive polémique mondiale, le coordonnateur national de la riposte contre la COVID-19 compte bien continuer à l'utiliser car son efficacité est réelle et permet de réduire la durée d'hospitalisation de 3 jours.
Tous les patients qui avaient pris ce traitement au stade précoce, c'est-à-dire avant l'apparition de complications, sont guéris et aucun n'est décédé. Concernant la tolérance, jusqu'ici, nous n'avons noté que 12 effets secondaires, soit dans environ 2% des cas. C'est donc dire que le traitement à base d'azithromycine d'hydroxychloroquine est efficace. C'est important de mentionner que compte tenu de cette polémique, nous ne nous baserons que sur nos résultats pour prendre des décisions.
Au-delà des questions purement médicales, les autorités sanitaires ont tenu à sensibiliser les populations sur la stigmatisation qu'ils considèrent comme un facteur favorisant la pandémie. Professeur Moussa Seydi affirme que cela affecte négativement la riposte.
La stigmatisation est dangereuse pour la personne malade elle-même parce qu'elle ne va pas consulter ou elle peut consulter tardivement et ainsi risquer sa vie. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de patients graves qui sont à domicile, qui refusent de venir à l'hôpital du fait de la stigmatisation. Et parmi ces patients, il y a même des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. La stigmatisation met en danger l'entourage du malade parce qu'une personne stigmatisée est moins prompte à respecter les mesures d'hygiène de base à l'endroit de son entourage. La stigmatisation constitue aussi un danger parce que cela pourrait réduire en néant véritablement la lutte que nous sommes en train de mener.
Les autorités sanitaires ont aussi appelé les populations à la responsabilité car la lutte est actuellement entre les mains de la communauté. Pour les médecins, l'assouplissement des restrictions ne doit pas inciter à la baisse de la vigilance, sinon le système sanitaire sénégalais risque d'être largement débordé. À Dakar, Sedina Abagay pour VOA Afrique.
Au Bénin, en plein processus électoral, les députés ont procédé en urgence à la modification du code électoral. Les raisons avancées restent le blocage du processus d'installation des maires à la tête des différentes communes du pays. En moins de 5 jours, les modifications ont été apportées et déclarées conformes à la Constitution avant d'être promulguées par le président béninois. Une première dans l'histoire politique du pays. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Désormais, le maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. À défaut de la majorité absolue, les élus locaux sont désignés par l'ensemble des partis ayant constitué une majorité absolue par la signature d'un accord de gouvernance communale. Et cette nouvelle loi adoptée en plein processus électoral n'a pas manqué d'étonner certains qui trouvent qu'il n'y a pas encore matière à aller vers un vote en procédure d'urgence. Baba Yaouvi est juriste.
Les communes sont transformées en sociétés anonymes avec un conseil d'administration, le chef du parti et un administrateur délégué ou un administrateur général, qui est le maire. Dans ces conditions, où est l'essence de la gouvernance locale? Où est l'essence de la démocratie à la base? Donc cette loi-là, ça pose de sérieux problèmes.
Pourtant, en procédant à la modification en procédure d'urgence du code électoral, les députés ont su régler un problème qui maintenait l'élection des maires dans une instabilité totale, plombant ainsi le processus de la décentralisation. Joseph Anani est député.
La loi semble obscur aux militants des différentes formations politiques et même les élus. Il y a lieu donc de clarifier ou bien de préciser la lettre afin que l'esprit de la loi ne soit pas extraverti. À l'occasion donc de ces installations, il y a des élus qui de façon solitaire exigent qu'on les élise maire ou bien des gens formant une sacoquine avec une minorité qui dit mais lève le doigt le jour-là et nous allons porter notre choix sur vous.
Au sein de la population, les avis sont partagés. Pour NS Jatin, commerçant, cette modification rapide et soudaine cache d'autres réalités.
Concernant la nouvelle loi qui a été votée, il y a quelque chose qui est caché en bas là. Puisque si, durant le processus, il y a une partie des maires qui a été installée sans la nouvelle loi. Et c'est après qu'on voit qu'il faut maintenant voter une nouvelle loi pour installer le reste des maires qui vont siéger.
Hector Arlin est cinéaste. Il pense que la loi peut subir des modifications à tout moment. L'essentiel est qu'elle soit utile.
Il faut voter la loi pour satisfaire les besoins de la population. Et je pense que toute la loi peut être modifiée à tout moment. La loi est votée par les hommes et cette loi peut être modifiée à tout moment.
Au lendemain du vote de la loi interprétative et explicative du code électoral, le président Patrice Talon a invité pour une concertation les partis politiques. Le but est de prendre leur avis sur cette modification avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce sur sa conformité. Tous les partis invités ont jugé nécessaire cette modification à la satisfaction du chef de l'État qui se frotte les mains.
C'est heureux que vous le connaissez vous-même, que là où le vote de nos concitoyens est clair et franc et qu'une majorité a été donnée à un parti politique, à un courant politique, il faut que la gouvernance reflète bien cette tendance dégagée clairement par le scrutin.
Au lendemain de la promulgation de la loi par le chef de l'État, les maires dans la plupart des communes ont été installés sans trop de difficultés. Déjà des soulèvements dans certaines communes suite à la désignation des maires. Les populations s'insurgent contre la désignation de certains élus locaux. Dimanche, l'association des rois et notables de Djougou, une ville située dans le nord du Bénin, a rejeté à travers une lettre adressée à l'autorité préfectorale le poste attribué au premier adjoint du maire. Et les jours à venir annoncent d'autres mouvements d'humeur dans certaines villes du pays. De Cotonou, Jeanette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Mali, les discussions autour du mandat de la MINUSMA vont bon train. Certains Maliens pensent que le mandat de la MINUSMA doit être robuste. Le secrétaire général des Nations Unies recommande qu'elle soit maintenue comme telle sans coupe. Que pensent les citoyens maliens de cette mission onusienne? Reportage de Kassim Traoré.
Indépendamment du tiraillement entre Paris et Washington, les Maliens souhaitent un mandat robuste de la MINUSMA. Massiré Diop, journaliste au quotidien L'Indépendant.
C'est vrai, ce mandat robuste, nous l'avons tout le temps réclamé, nous l'avons tout le temps demandé, mais jusqu'ici, les gens sont encore à leur faim. Parce que tout simplement, c'est une mission multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là tout simplement que pour le processus de paix, pour l'accord, pour la sécurité. Les domaines sont assez vastes et transversaux. Et moi, je pense que ça fausse des le problème. C'est-à-dire qu'il y a un péché originel qui est là un peu par rapport au déploiement de la MINUSMA. Et c'est ça qu'il faut essayer de corriger.
La MINUSMA est l'une des missions onusiennes les plus dotées en moyens. Mais le Malien moyen a un problème avec son mandat. Difficilement, il comprend que la MINUSMA soit là pour aider les maraîchers de Gao au lieu de combattre le terrorisme. Maître Chekmar Konare, avocat.
Pour le Malien lambda, cette mission vient combattre ceux qui mettent l'insécurité au Mali. Mais ce n'est pas le cas. Mais son véritable mandat, c'est de venir s'interposer entre la CEMA et l'État malien et appliquer l'accord d'Alger. C'est ce que les Maliens n'avaient pas compris. Et aujourd'hui, il faut que les Maliens comprennent ça. La MINUSMA n'est pas venue pour combattre les terroristes ni les rebelles. Et c'est pourquoi les Maliens la critiquent. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas compris sa mission.
Pour l'ancien président de la Maison de la Presse du Mali, la MINUSMA mène beaucoup d'actions au-delà de la stabilisation du pays. Makan Koné.
La MINUSMA, ce que je viens de le dire, la MINUSMA, c'est une des missions qui a perdu le plus d'hommes à travers le monde. Donc, ils font la guerre. Voilà, ils nous sécurisent, ils nourrissent. Par exemple, les bâtons dont on parle, c'est la MINUSMA qui sécurise ces bâtons jusqu'à Kidal. C'est la MINUSMA qui les nourrit, c'est la MINUSMA qui les a ravitaillés en 3 mois d'alimentation. Pour vous dire, la MINUSMA fait même plus que son rôle. Il faut tout faire d'abord pour tenir tête aux États-Unis par rapport au maintien de la MINUSMA et au maintien de son patron.
Le renouvellement du mandat de la MINUSMA coïncide avec le remplacement de l'actuel patron de la MINUSMA. Selon le journaliste Alexis Calambri, Anadif peut rester encore.
Au moins avec Anadif, on a vu à la limite une réconciliation de la MINUSMA avec les Maliens parce qu'il n'est pas étranger au milieu. Mais si vous amenez des Occidentaux ou d'autres, ça va créer d'abord, s'ils parviennent à s'adapter, il leur faut un temps d'adaptation. S'ils ne parviennent pas, ils viennent déjà avec une école de pensée, des clichés dans lesquels ils veulent caser et ça va créer des problèmes.
Les discussions sur le renouvellement du mandat de l'administration sont en cours et les Maliens suivent de près. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur la multiplication des attaques contre les travailleurs humanitaires en zone anglophone. Cette situation s'est accrue ces derniers mois et entrave l'acheminement de l'aide humanitaire à 1,7 million de personnes dans ces deux régions. Les groupes armés et les forces de sécurité camerounaises sont pointés du doigt. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julta.
Selon la coordination humanitaire des Nations Unies au Cameroun, les travailleurs humanitaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont victimes du harcèlement, de bastonnades, d'attaques, d'enlèvements et d'extorsions. Depuis avril dernier, affirme l'ONU, des employés de 6 agences humanitaires ont été victimes d'enlèvements ou détenus illégalement dans ces régions. Des attaques que l'ONU attribue au groupe armé non étatique. James Larke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, lors d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève.
Les motifs derrière des kidnappings sont financiers. Les éléments armés ont également utilisé des engins explosifs improvisés dans des zones à forte population et bloqué les routes et le transport entre les villes pendant plusieurs jours.
Conséquence, l'aide humanitaire sur le terrain a dû être diminuée, également à cause des entraves des forces de défense camerounaises à l'action humanitaire. James Larke, du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.
Selon certains rapports, des forces de sécurité camerounaises ont aussi retardé les mouvements des marchandises humanitaires. Toutes ces actions limitent l'accès aux personnes que nous essayons d'aider.
L'armée camerounaise n'a pas encore réagi à cette dénonciation. Mais le gouvernement s'est souvent montré critique à l'endroit des humanitaires travaillant en zone anglophone, notamment pour le cas précis du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale.
Tous les rapports de nos activités remis à la coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun n'ont jamais été publiés. Bien au contraire, nos données sont contestées et les chiffres erronés publiés par des ONG aux ordres font le tour du monde. Il faut changer cette façon de faire.
Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les bandes armées interdisent également aux populations de sortir certains jours. Raoul Soumou Tayo est chercheur en défense et sécurité. Pour lui, l'armée camerounaise perd progressivement le monopole de la violence légitime dans ces deux régions.
Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest deviennent des zones avec des acteurs. Donc, vous avez des insurgés qui discutent à l'État camerounais non seulement le monopole de l'usage de la violence légitime, mais également le monopole fiscal, qui sont tous deux des attributs de la souveraineté d'un État.
Des groupes séparatistes et l'armée s'affrontent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun depuis 3 ans. Ils réclament la sécession de cette partie du Cameroun. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 2,3 millions de personnes ont besoin de nourriture, d'abri, de produits non alimentaires et de protection en raison de cette crise. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedounia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA.